Tout de suite, l'économie hors du studio. On parle de ces emplois délocalisés sans bruit, des emplois de service dans la banque, par exemple.
Camille, et je suis concepteur développeur chez Natixis. Quand on a appris qu'il y avait le projet Atlas, tout le monde a été content qu'on ne soit pas concerné. On avait une communication comme quoi rien ne changerait pour nous. Et puis on s'est aperçu que nos chefs partaient beaucoup à Porto. Donc un jour, comme ça, on a posé la question en réunion de manière inopinée et on a vu qu'ils étaient bien gênés. Et donc on nous a appris que toute la partie support de notre activité allait partir à Porto. Et donc c'est plutôt des activités de gens diplômés, très diplômés, des profils de Bac+5. Ils peuvent avoir fait des études informatiques, ils peuvent avoir fait des études plutôt de commerce, enfin c'est entre les deux quoi.
Des études d'ingénieur?
Voilà, oui, ils peuvent.
Ouais.
Allô? Ce n'est pas une usine qui ferme, mais ce sont 600 emplois de service qui vont partir en 3 ans au Portugal. Voilà l'expérience de Camille et de ses collègues dans la banque de financement du groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Ce n'est pas la seule. BNP Paribas, par exemple, envisage de transférer au Maroc des services informatiques qui sont aujourd'hui installés en Île-de-France. 150 postes à la clé. Tout ça ne veut pas dire que les salariés perdent leur travail, ils sont redéployés, ils partent en retraite, mais leur activité, elle, quitte bel et bien la France. Délocalisation, externalisation, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène toujours silencieux qui reste difficile à chiffrer. Ça ne concerne pas que la banque, bien sûr. Mais pour comprendre, on retourne chez Natixis avec notre reporter Anna Le Cerf.
François Duché, donc je suis le secrétaire du syndicat CGT chez Natixis. Entreprise qui se porte très bien, hein, puisque depuis 3 ans, elle distribue chaque année plus d'un milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires. Donc c'est pas une entreprise au bord de la faillite. Et l'objectif, c'est qu'à une échéance de 3 ans, faut qu'il y ait un centre de compétences qui soit créé à Porto, avec un volume chiffré par la direction à 600 postes. Cette semaine, un point d'étape au comité central, entreprise. On voit que sur les 600 postes qui devraient être créés, il y en a 130 qui ont été créés, mais parmi ces 130, 30 seulement concernent des salariés recrutés en interne. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont des salariés de sociétés prestataires de services qui ont été majoritairement recrutés.
Donc ça veut dire que non seulement on délocalise au Portugal, mais qu'au Portugal, entre ce qui est dit, le fait de pouvoir embaucher des personnes sur place, et les réalités, en tout cas pour l'instant, il n'y a que 30 personnes qui ont été réellement embauchées. Le reste, c'est des prestataires, c'est ce que vous dites, c'est ça?
Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et on voit bien que ce qui risque de se passer, c'est que ce soit non seulement une délocalisation, mais en plus, encore plus d'externalisation qu'aujourd'hui.
Société Générale, Crédit Agricole, délocaliser des services, ces banques le font depuis plus de 15 ans, en toute discrétion. Régis Dos Santos est le président du syndicat national des banques, branche du syndicat des cadres.
Malheureusement, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a déjà plusieurs années qu'on est confronté à cette problématique. On n'en parle pas plus parce que pour les gens, ce sont des non-événements, quoi. Simplement, pour une équipe de télé, il n'y a rien de plus simple que d'aller devant la porte de l'usine où généralement il y a des pneus qui brûlent, il y a des drapeaux et des salariés en pleurs, ce qui est parfaitement logique. Quand vous êtes devant une entreprise où il y a en France 35 ou 40 000 salariés et qu'il y en a 600 qui sont éclatés dans plusieurs centres informatiques, qui savent qu'ils vont perdre leur emploi parce qu'ils partent ces emplois-là partent au Portugal, qu'est-ce que vous voulez filmer, quoi? Vous pouvez filmer l'esplanade de la Défense où il y a plein de gens en costume cravate. Voilà, ça ne va émouvoir personne, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la délocalisation des emplois? Est-ce qu'il y a des nouveaux emplois qui sont concernés actuellement?
Ce qui aujourd'hui est malheureusement beaucoup dans la tendance, je vous le dis, c'est le métier d'informaticien, tout ce qui tourne autour de l'informatique, de la gestion des réseaux et autres, sur le plan technique. Tout ça, ils ont tendance à vouloir le délocaliser. Alors au Portugal, ça nous inquiète un peu, évidemment, toujours, quand ça va à l'étranger, mais ça nous inquiète beaucoup plus dans des pays comme l'Inde, par exemple, où il peut y avoir demain une instabilité politique qui s'installe, et avoir le cœur du réacteur nucléaire de l'informatique d'une banque française dans un pays étranger qui demain peut connaître des soubresauts politiques, ça nous paraît relativement inquiétant. Et puis il y a aussi le phénomène des signaux. Vous savez, c'est important de montrer à ses actionnaires que, on prend des mesures, on délocalise à tel endroit, même si on n'est pas certain et complètement convaincu qu'on va y faire des économies substantielles en préservant la sécurité. En tout cas, ça envoie à l'actionnaire un signal très positif. Vous n'aurez pas échappé que quand une entreprise annonce des résultats très importants, mais en même temps plusieurs milliers de licenciements, alors je ne parle pas de la banque, mais de la métallurgie ou autre, généralement le cours de bourse fait un bond très important dans la séance qui suit, parce que l'actionnaire est rassuré et qu'il veut à nouveau réinvestir dans l'entreprise.
Transférer son activité à l'étranger n'est pas le monopole des banques. Grandes et moyennes entreprises et même le secteur public y ont recours via l'externalisation. Pour cela, des plateformes existent comme Offshore Development, une sorte d'annuaire de prestataires de services à bas coût. Nicolas Goldstein est son fondateur.
Offshore Development est une place de marché qui met en relation des donneurs d'ordre francophones avec des prestataires dans le monde entier spécialisés dans le service. Il y a tout type d'entreprise française, ça va de la TPE jusqu'au grand compte. Par exemple, en grande entreprise, nous avons des grosses agences de communication multinationales qui, elles, externalisent déjà dans le monde entier et qui font appel à la compétence là où elle est la plus compétitive. Donc, par exemple, une grosse agence de communication qui a pignon sur rue en France, elle a une centaine de designers basés dans l'océan Indien, par exemple. Nous avons également des entreprises dans l'industrie automobile qui vont externaliser des ingénieurs informatiques, soit en Roumanie, soit en Inde. Donc dans le secteur public, c'est souvent délicat, ils vont passer plus par des agences ou des intermédiaires qui sont basés en France qui vont le faire à leur place. Et cette agence en France va passer par notre plateforme Offshore Development pour aller chercher un prestataire à l'étranger. Exemple, tout ce qui est la saisie numérique de tous les actes d'état civil. Dans toutes les mairies, elles sont obligées de numériser de nos jours les actes d'état civil. Et en France, ce serait un travail colossal à faire. Donc, c'est pas possible. Donc, elles sont obligées de le faire avec des prestataires basés à l'étranger. Mais souvent, elles peuvent pas contracter avec l'étranger. Donc, elles passent par un intermédiaire français qui est une société de service française. Donc, en fait, on parle d'externalisation depuis des années. Moi, je parlais maintenant de plus en plus d'agilité. Comment rester agile? C'est en allant chercher la compétence là où elle se trouve, à des tarifs plus compétitifs que l'on pourrait avoir à côté de chez soi. Et actuellement, on peut travailler à distance avec des travailleurs du monde entier.
Externaliser une partie de son activité, c'est même devenu une nouvelle manière de penser son projet d'entreprise. D'autant plus que cela permet de faire baisser les charges. Alexandre Vogue l'a bien compris, il est le fondateur d'une start-up, Ilou.com.
Ilou a été créé en 2009. On a commencé la délocalisation à partir de 2014. On s'est rendu compte qu'on avait une forte rigidité des contrats de travail en France, donc on avait besoin de flexibilité. Alors que ce soit en Russie, en Ukraine ou au Maroc, nous avons des développeurs web. Ils pourraient être tous au même endroit, mais on est sur plusieurs endroits parce que ça nous permet finalement d'avoir encore plus d'agilité. Donc c'est intéressant pour nous. En France, on va payer entre 500 et 800 euros la journée. À l'étranger, on va être entre 100 et 250 euros la journée. Donc on est vraiment sur du x2, x3. Donc c'est vraiment impressionnant les différences de coûts pour des qualités et une expérience et une formation équivalente. Sur la partie technologique, on est allé jusqu'à tripler nos effectifs grâce à l'externalisation. Après, en termes de masse salariale, ça reste finalement petit parce que finalement, les coûts sont beaucoup, beaucoup moins élevés en passant par des prestataires à l'étranger qu'en passant par des salariés classiques comme on a en France.
Et vous, d'un point de vue éthique, vous vous posez pas des questions sur le fait justement de payer quelqu'un deux fois moins cher qu'un salarié français? Est-ce que ça vous questionne?
En fait, je pense qu'on réfléchit pas en se disant voilà, on paye quelqu'un moins cher qu'un salarié français. On se dit généralement quand on paye quelqu'un dans son pays, nous on sait qu'on le paye environ 2 à 3 fois le salaire moyen de son pays. C'est comme si vous gagnez 3 fois le salaire moyen en France. Donc je pense qu'au contraire, on a le sentiment de faire très bien vivre des personnes dans leur pays, quoi.
Et sur le fait de pas créer de l'emploi plus que ça en France?
C'est vraiment pas un problème éthique, c'est vraiment un problème d'offre et ils font un contrat de travail plus flexible et je pense que ça peut créer beaucoup d'emplois en France.
Helmut Mouhoud, professeur à l'université Paris-Dauphine, économiste.
Et spécialiste?
Spécialiste des délocalisations, relocalisations et migrations internationales. Oui, il y a un mouvement de délocalisation qui s'est accru dans les activités de service aux entreprises. On a les yeux rivés sur la désindustrialisation. Ce qui se passe pendant les élections, pendant les campagnes électorales, les solutions qui sont proposées ne sont que des solutions qui touchent les entreprises industrielles. Et donc, effectivement, les activités invisibles, leur délocalisabilité est moins visible que celle des entreprises industrielles. Car on peut très bien faire de la délocalisation de tâches de services dans les entreprises d'assurance, de banques, dans des hôpitaux, n'importe où, en faisant de la sous-traitance à distance. Donc, ça va avoir des répercussions sur l'emploi, mais c'est pas... comme si on fermait une usine pour l'ouvrir en Roumanie. C'est pas du tout la même chose. Ces délocalisations ont des effets relativement faibles en termes de destruction d'emplois lorsqu'on les observe au niveau macroéconomique, au niveau de l'ensemble de la nation, si vous voulez, en moyenne. Mais lorsqu'on les observe au niveau local, dans certaines zones d'emploi, de bassins d'emploi, eh bien là, on observe que ça peut être extrêmement fort pour certains territoires. Et il faut une vraie stratégie d'anticipation de ces chocs, il faut un investissement dans la formation, la qualification sur les territoires, et il faut surtout avoir une cartographie des territoires qui risquent d'être choqués dans l'avenir, comme ça a été le cas avec les territoires spécialisés dans l'habillement, dans la chaussure, etc.
Dans les services, des délocalisations qui passent sous le radar. C'était le reportage d'Anna Le Cerf.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.